C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de Camille Poignant et de ses coups de soleil. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien.
Pourquoi coups de soleil?
Je suis parti faire du ski, voilà. J'avais besoin de me faire mal aux cuisses, là je suis courbaturé de partout, mais ça fait toujours du bien.
Tu m'étonnes,
voilà, tout simplement.
Tu m'étonnes, non, la montagne, quel plaisir les amis, c'est lundi et comme chaque lundi, eh bien, on vous fait notre veille social media. Hein. Quoi de neuf Camille, qu'est-ce que tu as noté de beau de ton côté?
Eh bien, deux, trois petites actus, écoute, la première dont je pourrais te parler, Instagram qui ajoute des sous-titres en français dans les vidéos du feed. Alors en mars, hein, Instagram testait une option de sous-titrage des vidéos en story, option qui était déjà en essai au temps d'IGTV, ça fait longtemps que ça traîne, et on a vu très vite l'outil se développer, mais uniquement en langue anglaise. Dans la foulée, ça a donc été développé, validé, intégré à l'outil Story. Et puis, il y a quelques jours, Instagram a annoncé compléter cet outillage avec une option de sous-titrage automatique pour les vidéos du feed, et en français, s'il vous plaît. En tout cas, dans plusieurs langues. C'est un très bel outil, hein, donc qui va aider la communauté de sourds et malentendants qui utilisent la plateforme. Déjà, c'est un des objectifs d'Instagram. Mais au passage, c'est également un bon compromis pour les personnes qui utilisent Instagram en mute, ce qui risque fort d'augmenter le temps passé sur la plateforme. On le sait, il y a beaucoup de personnes qui mettent pas le son dans les lieux publics, au travail, etc. Il sera possible, alors c'est une option qui est automatique, hein, c'est là où c'est un peu flou pour l'instant, a priori ça se fera sur toutes les vidéos. Il sera néanmoins possible d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité de sous-titrage automatique grâce au menu 3 points qui est en haut à droite de chaque publication. On pourra dire « je ne veux pas voir les sous-titres ». Pour aller plus loin, on peut même imaginer demain que ces sous-titres soient traduits automatiquement. Moi, c'est un peu le truc qui me fait kiffer dans l'histoire, puisque ça va être géré intégralement par une intelligence artificielle. Aujourd'hui, on sait qu'on peut traduire un statut, par exemple. Donc, pourquoi pas traduire aussi le sous-titrage d'une vidéo?
Ouais, ça c'est intéressant. Alors petite question quand même, c'est est-ce que je vais pouvoir désactiver ce sous-titrage éventuellement? Je pense notamment
au créateur, tu veux dire.
Ouais, je pense notamment au créateur de contenu qui parfois déjà insère du texte hein, dans sa vidéo.
C'est pas annoncé.
Parce que là tu te retrouves avec le texte issu de ta vidéo, alors je sais pas, pour parfois des insert motion, parfois même déjà du sous-titre mais mis en forme d'une façon particulière, et tu te retrouves avec une part d'écran qui commence un peu à se réduire hein, aussi.
Et ça c'est pas annoncé pour l'instant, on sait juste que les utilisateurs qui consultes vont pouvoir masquer, mais pas le créateur. Donc c'est vrai que ça peut être un peu embêtant. On va voir ça.
Ok, affaire à suivre. Allez, moi je vais vous parler de la team innovation de Meta qui vient d'annoncer le lancement d'une application social de to-do list. Alors on en a déjà parlé ici. Meta a une sorte de team secrète qui s'appelle le NPE. Tu te souviens Camille?
C'est vrai.
New Product Experimentation. Voilà, c'est un peu comment on pourrait dire, une équipe de super-héros hein, qui
c'est
travaille.
C'est la zone 51.
C'est la zone 51 de Meta. Et à quoi ils servent? Eh bien, ils conçoivent des nouveaux produits pour le groupe Meta, une sorte de laboratoire secret qui propose régulièrement des applications innovantes. Eh bien, la team NPE vient de sortir une application qui s'appelle Move. Alors, il s'agit d'une application de gestion de tâches collaborative. Je peux créer une liste de tâches et on peut la partager en groupe pour faire avancer un sujet ensemble. Alors là, vous vous dites, rien de
Slack,
Asana, Monday, etc. Bref, tu en as déjà des tonnes. Oui, peut-être, mais ici, il y a un principe, on va dire, de gamification qui est assez intéressant. Plus tu fais avancer les tâches d'un projet et plus ton avatar perso gagne des points, en gros. C'est un peu comme, tu sais, quand tu donnes de l'argent de poche à ton gamin parce qu'il fait, il débarrasse la table ou il met le couvert ou il donne à manger au chat. Eh bien là, c'est à peu près la même chose, sauf que ce sont des objets numériques ou des nouvelles fonctionnalités pour compléter ton avatar. Un avatar qui au passage est un alpaga, voilà. Alors pourquoi? Parce que ça change des singes peut-être, parce qu'on
voit
les lamas
sont à la mode, c'est sympathique.
Donc c'est un petit alpaga et en gros si je fais des tâches dans cette application Move, eh bien mon alpaga peut gagner, je sais pas, un chapeau, des lunettes, etc., etc. C'est marrant parce qu'on retrouve un peu tous les codes du monde des NFT, évidemment, hein, les Paga, d'ailleurs, ils ressemblent beaucoup aux NFT et ils peuvent. Cette tendance hein, autour des NFT un peu minimaliste, tu vois, un peu très coloré, etc. Et peut-être que Meta est en train de tester un nouveau mode d'utilisation ou un nouveau mode d'animation autour de ces communautés NFT, quelque chose de plus participatif, peut-être même de plus constructif, puisqu'il s'agit de gestion de tâches. Encore une fois, ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que les projets de ce groupe NPE sont des projets de recherche. Hein. Meta n'a pas pour ambition de faire, à proprement parler, des applications à succès via le NPE. C'est, là-dessus, ils, s'en sont déjà, ils ont déjà communiqué en disant non, l'objectif, ce n'est pas ça. D'ailleurs, ils ont sorti, le groupe NPE a sorti 14 applications sociales. Il n'y en a plus que 2 qui sont en vie. Donc, ce n'est vraiment pas l'objectif de créer des applications indépendantes. C'est plutôt de tester des choses en grandeur nature et potentiellement d'isoler un certain nombre de micro-fonctionnalités, voire de fonctionnalités plus globales et de voir comment on peut les rapatrier dans l'écosystème du groupe Meta, WhatsApp, Instagram, Facebook. Donc peut-être qu'il y a des choses intéressantes qui un jour ou l'autre seront rapatriées dans les plateformes qu'on connaît aujourd'hui.
Les mecs, ils sont bien, ils sont là, ils créent des trucs, ils sont un peu perchés.
Peut-être que c'est le meilleur job au monde.
Carrément. Voilà. Ça me fait beaucoup penser à Waze, tu sais, la plateforme de géolocalisation de
Google.
Non, Waze, de l'application qui nous permet de voyager en voiture. Voilà.
Oui, ça appartient au groupe Google.
Ok, de Google, ouais. Donc, où pareil, tu as une gamification. Si tu aides l'application en indiquant des sens interdits, des choses qui ont bougé, tu gagnes des points et tu peux faire évoluer ton personnage, ton avatar. Donc, peut-être.
Est-ce que toi, tu as un avatar qui a, par exemple, je sais pas, une petite couronne, etc.
En fait, au tout début de Waze, je me suis dit, ah, trop bien, on peut aider, on peut faire des trucs. Alors, j'ai fait 2-3 modifs, j'ai eu des points, j'ai dû avoir une couronne et une épée. Puis après, je me suis dit, ça sert à rien, en fait. Mais voilà, je me suis quand même prêté au jeu. Moi, je vais te parler de Twitter. Comment mieux commencer la semaine qu'en parlant de nos deux idoles, Alessandro Paluzzi et Jen Manchun Wong, les deux reverse engineers qui découvrent les nouveautés avant qu'elles soient annoncées sur les plateformes. Donc,
c'est vrai que c'est un peu nos meilleurs potes.
Et là, ils sont en commun, il y a eu un travail, alors pas vraiment en commun, mais il y a eu un travail simultané en tout cas. Cette fois-ci, chacun d'eux a remonté avoir découvert une fonctionnalité podcast cachée dans Twitter, dans l'un des menus, mais également sous forme d'une bribe d'application interne, un petit peu planquée dans le code. Pour Twitter, on pourrait presque dire que c'était une évidence après l'ajout et le succès de Twitter Spaces il y a à peu près un an. Et puis globalement, il semble logique hein, pour eux de suivre le mouvement global, comme ont pu le faire Facebook il y a déjà quelques mois et plus récemment LinkedIn en créant leur propre plateforme de podcast, leur propre groupe de podcast. À noter hein, que pour Twitter, c'est une belle opportunité qui se présente là avec, par exemple, la possibilité d'archiver durablement les Spaces, comme on est en train d'en enregistrer un là, peut-être d'ajouter une ou deux fonctionnalités d'intro, d'outro et de balancer ça en ligne. Et pour rappel, hein, il y a un an, Twitter, je ne m'en rappelais pas, rachetait Podbreaker, c'est une application de recherche de podcasts. On le sait, Twitter commence par racheter des petits trucs, les intégrer doucement. C'est ce qui s'est passé avec l'appli de newsletter, le logiciel de newsletter Review, qui maintenant est pleinement intégré à Twitter. Donc il y a un move podcast qui commence à se dessiner.
Intéressant, d'autant plus que Twitter vient de rendre possible l'enregistrement réel de ton Spaces. Hein,
ouais.
Ça fait quelques jours déjà que c'est ouvert à tout le monde. Ouais, on le voit venir, ce truc, la possibilité d'archiver, ça serait très intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est si demain, j'ai la possibilité aussi de générer un flux RSS pour ces enregistrements Spaces et donc d'aller potentiellement positionner mes enregistrements Spaces en format podcast sur Apple Podcasts, Spotify,
directement,
etc.
Immédiatement. Ouais. Et ce qu'on voit, il y a une lame de fond aussi sur toutes les plateformes et particulièrement Twitter autour des créateurs de contenu. Ce qu'annonce Twitter aussi, c'est que ça pourrait être un outil à destination des créateurs de contenu qui pourraient s'adresser à leur communauté via cet outil podcast.
Intéressant, intéressant. Allez, les amis, on va parler d'un truc moins fun. Je vous amène en Europe de l'Est avec Facebook, Twitter et YouTube qui ne sont désormais plus du tout accessibles en Russie. Facebook avait bloqué la semaine dernière les pages des médias pro-russes. Vous vous en souvenez, RT, Sputnik, donc Russia Today, Sputnik, aussi l'agence de presse RIA Novosti et pas mal aussi de sites un peu controversés hein, comme ça qui sont détenus ou en tout cas organisés par le gouvernement russe. Et en représailles, à ces blocages du groupe Meta, le régulateur russe de l'internet Internet a carrément coupé le jus. Hein. Donc il n'y a aujourd'hui en Russie plus de Facebook, plus de Twitter, plus YouTube. La Russie accuse les différents réseaux sociaux, plateformes sociales de discriminer les médias russes. Pour l'instant, à noter, hein, les autres applications du groupe Meta, elles semblent rester indemnes. On pense à Instagram et WhatsApp qui semblent toujours tourner aujourd'hui en Russie. Alors, couper du monde les Russes, peut-être pas si sûr en fait, hein, puisque depuis le 24 février dernier, les applications de VPN sont en tête des classements de l'Apple Store et du Google Play Store. Plus de 1,3 million de téléchargements en quelques jours, hein, pour ces VPN qui, rappelons-le, permettent en fait de dire à Internet « je suis ailleurs ». Donc tu peux très bien être en Russie et puis dire « je suis en France », faire croire que tu es en France et du coup accéder,
continuer
à accéder à tes plateformes. Hein. Et tout ça, toutes ces nouvelles mesures, hein, du gouvernement russe à l'encontre de Meta, ces représailles, vont avoir un coût pour Meta. Hein. Selon Statista, Facebook compte environ 66 millions d'utilisateurs russes, c'est pas rien. Et l'application, alors j'ai fait mon petit calcul, hein, l'application elle a rapporté $19.68 par utilisateur en Europe l'année dernière. C'était le rapport annuel du groupe Meta qui annonçait ça. Donc si on fait les comptes, ça veut dire que Meta perd environ $3.6 millions par jour en étant hors du territoire russe. Si on devait imaginer que ces sanctions devaient durer l'intégralité de l'année 2022, ça représenterait quand même une perte de $1.3 milliard, soit un peu plus de 1% du chiffre d'affaires du groupe Meta, donc c'est pas rien.
Après, si on imagine que 20% de ces gens ont pris un VPN, il y a la possibilité qu'ils aient toujours Facebook finalement.
Potentiellement.
Ok, ouais, bah c'est un très beau calcul, merci pour cette
estimation. Je t'en prie.
Moi, je vais te parler de NFT. Une petite actu sympa ce matin, deux youtubeurs, McFly et Carlito, qui ont fait une de leurs célèbres sessions d'appel au hasard avec Squeezie. Donc c'est une des dernières vidéos qu'ils ont créées, jusque là normal, hein, c'est une de leurs traditions. La vidéo d'origine est disponible sur leur compte YouTube, donc je vais mettre le lien dans les notes du podcast. Et parti d'un délire ensemble, ils ont créé une NFT appelée Bini Wesh La Zone. Elle a été créée sur Paint, en toute objectivité c'est plutôt très très moche, joli fond vert dégueulasse, tu sais, le vert paint très clair, espèce de bonhomme dessiné vraiment à la souris, façon année 2000. Mais le plus important, c'est pas ça. L'argent récupéré grâce à ce NFT sera donné entièrement au Secours Populaire. 2 heures après la sortie de la vidéo, ils avaient atteint $2000 et actuellement, on en est à 2 Ethereum, soit plus de 5000 euros gagnés grâce à ce NFT. Donc, on voit que utiliser la popularité et les NFT, ça peut être cool.
Ouais. Et puis, par contre, hein, c'est toujours pas des éléments de crédibilité additionnels, hein, pour les NFT qui sont aujourd'hui quand même en pleine tourmente, sans doute entre dans une crise de maturité, on va dire,
un besoin. Et puis qui devient un peu une monnaie en même temps.
Ça devient un peu complexe, cette histoire de NFT. On pense aussi à l'Ukraine, hein, là, qui a lancé une série de NFT pour financer un certain nombre d'actions militaires. Tout ça est bien compliqué. Ouais. On est en droit, en tout cas, on peut espérer autre chose de cette techno, un non-fungible token. Voilà ce qu'on pouvait dire, les amis, ce matin. Est-ce que tu as autre chose, Camille?
On va pouvoir commencer notre semaine.
Et voilà, merci à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Vous nous écoutez sur votre application de podcast préférée. Un grand merci si vous nous écoutez sur Apple Podcast, Spotify. Allez, on vous demande une faveur, les amis, mettez-nous 5 étoiles et puis un commentaire. Pourquoi ? Déjà, ça nous fait très plaisir de les lire. Ensuite, ça nous donne un coup de pouce algorithmique et puis ça permet aussi à plus de monde de découvrir ce petit rendez-vous matinal. Voilà.
Et puis si vous avez vu passer vous aussi des actus cool qu'on n'aurait pas évoquées, n'hésitez pas à venir en échanger avec nous sur les plateformes, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok et tous les matins sur Twitch, où vous êtes, nous y sommes, les amis.
Merci à vous tous, on vous embrasse. Très très belle journée.
Allez, salut,
tout le monde.
Ciao. Bye.